Chapitre 41. Les parois rapprochées ne permettaient plus le passage que d'une seule personne à la fois. Devant moi, Nathan éclairait le plafond, appréhendant ce qui allait surgir ou tomber. « Tu ne veux rien me dire ?» demanda-t-il sans se retourner. « Pas moyen de savoir à quelle sauce je vais être mangé ?» Je m'arrêtai et restai muet. Il me jeta un rapide coup d'œil pour vérifier si j'étais toujours là. « Ça t'amuse de me voir me jeter dans la gueule du loup, hein ?» Il parlait plus pour se rassurer que pour réellement poser des questions auxquelles il savait pertinemment devoir répondre lui-même. Dans l'étranglement, il pouvait à peine écarter les coudes. Seul l'écho de nos pas troublait le silence, accompagné d'un léger tintement qui allait croissant. Entre les mains de Nathan, la lampe eut brusquement un soubresaut, puis un autre. Le faisceau lumineux tressautait. Son sac à dos se mit à s'agiter, comme pris de spasmes. Mon ami tremblait. Il avançait désormais en se tenant au mur. Je devinais la terreur sourde qui montait en lui. Son sac remuait de plus en plus. J'entendais ses clés et sa monnaie s'entrechoquer à l'intérieur. À présent, il arrivait à peine à maintenir sa lampe. Tout son corps semblait bousculé par d'invisibles assaillants. Il esquissa un geste pour revenir vers moi. « Non, ne recule pas, réfléchis. Je suis à quelques mètres derrière toi et là où je me trouve, tout est normal. Lâche le mur et avance. »«
Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression qu'on me fouille. Je sens mon sac bouger tout seul et ma lampe fait ce qu'elle veut. »
Sa voix chevrotait. Dans un mouvement qui tenait autant de la danse que de la démarche d'un ivrogne, il reprit son avancée, brinque-ballé d'un côté à l'autre. Des dizaines de mains invisibles le tiraillaient en tous sens. Son faisceau de lumière virevoltait, les bretelles de son sac à dos étaient tendues dans un va-et-vient saccadé. Je l'entendais marmonner un mélange de mots plus ou moins corrects et de bribes de raisonnement. Et il n'était même pas encore à la moitié du passage. J'avais le pouvoir de lui épargner tout cela, mais là encore, son chemin vers la confiance passait par le doute et la peur. Je détestais voir mon ami ainsi, seul face à ses craintes.
« Ma lampe, les clés, qu'est-ce que j'ai dans mon sac ?»
Soudain, il se retourna vers moi.
« Ça y est, j'ai compris !» s'exclama-t-il triomphant. « Tout ce qui bouge est métallique. Il doit y avoir un champ électromagnétique ou quelque chose dans ce goût-là. »
Je souris. Soulagé d'avoir éclairci le mystère, il s'exclama.
« Je suis dans un champ magnétique, c'est pour ça que tout ce qui est fait en métal réagit. »
Derrière chacun de ces murs ont été placées des tonnes de pyrite magnétique dont les blocs sont orientés dans un sens précis. Tu as forcément joué avec des aimants quand tu étais gosse. Si tu mets les plus face aux plus ou les moins face aux moins, ils se repoussent. On s'amuse à déplacer de petits objets sur ce principe dans certains jeux pour les enfants. Rien de tangible ne les touche, c'est une force invisible qui les met en mouvement. Ici, c'est la même chose. Le champ magnétique agit sur tout ce qui se passe entre les murs. Nathan regardait autour de lui en riant. « Maintenant, je te conseille d'avancer parce que si tu restes entre ces aimants géants, tu vas t'offrir un joli mal de tête. » Nathan reprit sa progression. Il avait sorti ses clés de sa poche et les regardait tournoyer au bout de ses doigts. En quelques instants, je le rejoignis à la sortie du passage. À l'étranglement succédait une passerelle étroite qui enjambait une vaste oubliette au fond tapissé de pieux. Je l'ai montré à mon ami. « Si tu cours parce que tu es terrifié, les aimants te font perdre l'équilibre, et c'est terminé. » Nathan baissa sa lampe vers les pointes en frémissant. « Vicieux, mais probablement très efficace. »«
C'est neuf. »«
Comment ça neuf ?»« Ce piège n'a jamais servi. » Nathan sourit et s'éloigna un peu de la passerelle. Il lança une pièce de monnaie entre les deux murs magnétiques. Elle commença son vol en une trajectoire rectiligne avant de partir en zigzag, ricochant entre les deux parois dans un tintement sonore. Nathan souriait, heureux d'avoir triomphé du piège et de lui-même. Songe qu'à l'époque, ils ne se baladaient pas en sweatshirt et en jean. Ils avaient des casques, des cottes de maille et des épées. Rien que de la ferraille. Ce n'étaient pas des tintements de clés qu'ils auraient entendus. Ils auraient été littéralement projetés d'un mur à l'autre comme des sacs. Après les épreuves qu'ils avaient endurées pour parvenir jusqu'ici, Il y avait de quoi achever les plus tenaces. Personne n'est jamais arrivé jusque-là?
Jamais.
Pas un humain étranger à la confrérie n'a foulé ce sol.
Il devait pourtant y avoir des visiteurs dans cette cité.
Mais ils ne traversaient les souterrains que pour se rendre au château ou pour livrer des marchandises. Quelques-uns, plutôt rares, sont allés dans les quartiers d'habitation, mais aucun n'est venu ici. Le bruit de nos pas se doubla bientôt d'une lointaine rumeur, un mugissement sourd qui s'installait insidieusement. Le son croissait à chaque intersection. Nous approchions du moulin. Après avoir passé deux imposantes grilles de fer forgé, nous arrivâmes à une troisième, elle aussi ouverte. Le tunnel s'arrêtait là. Cette dernière grille protégeait une sorte de vestibule au plafond voûté décoré de motifs sculptés, donnant sur une monumentale porte en bois renforcée de ferrures. Le grondement venait de derrière cette porte.
Heureusement que les grilles étaient ouvertes, fit remarquer Nathan. Sinon, on était bon pour la scie à métaux pendant des heures.
Les frères ont les clés. Ils les ont gardées depuis des siècles.
Ce n'était pas nécessaire.
Je lui indiquai les petites marques gravées sur le pourtour de la serrure. Le fer était à peine piqué par la rouille. Il suffit de connaître le code gravé autour pour redessiner la clé qui ouvre la grille. C'est comme la combinaison d'un coffre. Nathan hocha la tête, admiratif devant l'astuce du procédé, puis il se tourna vers la grande porte.
« Y a pas de poignée? Ni aucune serrure ?»
L'imposante porte à deux vantaux se présentait comme un bouclier. On la devinait massive, lourde, et l'absence de prise ou d'ouverture la rendait plus impressionnante encore. Sur la droite, une des pierres taillées du mur était percée d'une cinquantaine de trous. Au-dessous était gravée une phrase dans une langue aussi ancienne qu'incompréhensible. Nathan rapprocha sa lampe.
« Ce serait pas ça, la serrure? Qu'est-ce qui est écrit ?»«
Celui qui y est, y sera, à peu de choses près. Cherche sur ta droite, tu vas trouver une niche contenant des tiges. » Nathan sortit un fagot d'étranges baguettes de fer aux têtes ouvragées représentant des diables ou des anges. Semblables à des clous de menuisier, elles étaient de longueur variable, de 6 ou 7 à une quinzaine de centimètres. J'en saisis une et la glissai doucement dans un des trous. Ils étaient juste assez larges. Tu dois les placer ainsi, de façon que les têtes forment un motif. Et le motif est la combinaison qui ouvre la porte. Il faut mettre les bonnes tiges dans les bons trous, c'est ça?
C'est même plus simple. Tu bouches certains trous et, en appuyant, un jeu de contrepoids actionne la porte.
On est obligé d'utiliser toutes les tiges?
Non.
Un même ornement de tête correspond à une même longueur. Prends-les identiques, sinon tu ne pourras pas les maintenir enfoncés en exerçant une pression égale sur chacune.
Reste à trouver le motif.
J'imagine que la phrase est un indice.
J'acquiesçai.
Nathan réfléchit, répétant machinalement la formule gravée, jouant avec les fines barres de métal.
Celui qui est, y sera.
Bon. « Sera » doit avoir un rapport avec le fait de passer la porte. « Celui qui est sera de l'autre côté, franchira le seuil. Mais celui qui est quoi ?»
Seuls ceux qui appartenaient à la confrérie avaient ce droit.
Il hocha la tête sans quitter des yeux la pierre trouée. « Pour passer de l'autre côté, l'aiguillai-je, il fallait être soit un frère, soit un templier. » Quel est le seul symbole représentant à la fois les deux ordres?
Il réfléchit un court instant et releva la tête en éclairant la clé de voûte.
La croix!
La croix templière, celle qui est sculptée là-haut.
Il se retourna vers la pierre trouée et glissa les premières tiges. Lorsqu'il eut fini, une vingtaine de têtes d'anges dépassaient de la pierre.
Tu dois appuyer dessus.
Nathan chercha un objet plan susceptible de recouvrir toutes les têtes. N'en trouvant aucun, il s'adossa dessus et commença à pousser avec son dos.
« Bien joué.
Tu vois les deux trous dans le mur face à toi? Ce sont des sorties d'arbalète. Quand tu appuies sur les têtes, soit la porte s'ouvre, soit tu prends deux flèches en pleine poitrine. »
Nathan se figea, le regard rivé sur les deux ouvertures.
« Et tu me laissais faire sans rien dire?
Demande-toi plutôt si tu as confiance dans ton raisonnement. »
Pour autant que je m'en souvienne, Ce dessin doit être le bon. Enfin, je crois. On va vite le savoir. Nathan comprit que je plaisantais et finit d'enfoncer les tiges en appuyant de tout son poids. Une série de cliquetis résonna. Il se jeta sur le côté, redoutant que les sons ne proviennent des arbalètes. « Ne t'en fais pas, » fis-je en haussant la voix pour couvrir les bruits métalliques. « Si tu t'étais trompé, tu n'aurais jamais eu le temps d'esquiver. » Je riais de voir sa méfiance à l'égard des deux petits trous noirs qui gardaient la serrure. Un ultime déclic se fit entendre et la porte s'entrebâilla. Nathan ajusta sa lampe frontale avant de pousser le battant. Le grondement d'une chute d'eau assaillit nos oreilles dès que nous entrâmes. Quand la porte se referma derrière nous, nous entendîmes les tiges s'éjecter et tomber par terre. Ma lampe accrocha un reflet de métal peint, les groupes électrogènes posés par les équipes de chercheurs. Je démarrai les machines qui, après avoir tout sauté, prirent leur régime normal. Leur ronflement était amplement couvert par la chute d'eau. En suivant les câbles, j'arrivai à un tableau équipé de voyants et d'interrupteurs. Je poussai tous ceux qui portaient la mention « lumière ». De puissants projecteurs s'allumèrent les uns après les autres, inondant d'une lumière blanche l'endroit le plus impressionnant, le plus insensé et le plus fabuleux qu'il m'ait été donné de voir. Nathan était debout, immobile, bouche bée devant ce lieu tiré tout droit d'un rêve insensé, conjuguant mystère et aventure, le moulin.